Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas et Edouard, les deux membres du groupe Pépite. Avec un premier album intitulé Virage paru en 2019, Pépite est un groupe on ne peut plus prolifique et qui existe dans le paysage de la pop française depuis leur premier EP, Les Bateaux, paru en 2016. En 2021, ils sortent le superbe EP Rêve Réalité et en 2023, ils me font l'honneur de venir faire l'hymne de leur daube. Vous connaissez peut-être déjà Pépite, du moins je vous le souhaite, sinon je vous envie de les découvrir avec par exemple le titre Les Bateaux, issu de l'album Virage.
Il y a toujours quelque chose qui cloche. Il y a le temps. Oh, il y a les gens. J'ai vu, j'ai cru pouvoir tout faire, tout voir avec mon espoir. Et maintenant qu'il fait chaud, que les gens bronzent tous en maillot.
Et la très bonne nouvelle du jour, c'est que le 26 janvier, Pépite sort son nouvel album, intitulé Les années de lumière, dont est issu le beau single Très bleu. Salut Pépite.
Salut à toi.
Salut. Bonjour. Je suis en présence de Thomas et Edouard. Alors, est-ce que vous pouvez dire votre prénom, comme ça les auditeurs et auditrices entendront la voix attitrée au prénom, parce qu'on a deux voix masculines.
Alors, cette voix, c'est Edouard.
Et celle-ci, c'est celle de Thomas.
Enchanté.
Enchanté. C'est un plaisir d'être là.
Un plaisir de vous recevoir. Bon, alors, première question, tout simplement, je voudrais savoir quelle est la daube que vous avez choisie pour aujourd'hui.
Alors, on a choisi L'envie d'aimer de Daniel Lévy.
De le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour saura se donner dans l'envie.
Exactement. Alors, tout simplement, au tout début, puisque c'est une chanson qu'on entend depuis quelques années, que la France a pu entendre depuis un petit bout de temps, je me demandais ce qui vous a fait vous mettre d'accord sur le fait que c'était une daube.
C'était pas simple déjà.
Déjà, c'était pas simple, parce que si je peux revenir un peu sur le concept de ton émission.
Je t'en prie.
Je trouve ça assez... alors, je comprends un peu le concept, mais moi j'ai un peu honte de rien.
Ouais.
Et j'ai regardé aussi, parce que j'ai voulu préparer un peu l'émission, on a voulu préparer l'émission avec Edouard, et on a vu d'autres artistes, et on a vu des morceaux, mais c'est pas du tout des daubes, quoi. Je dis, c'est, moi aussi, j'aurais pu dire, waouh, je sais pas, moi, autre chose. Et là, on s'est dit que c'était quand même un peu de la daube, dans le côté un peu, comédie musicale, il y a un côté Disney sur lequel on va peut-être revenir aussi.
Mmh, bien sûr.
Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi comme la daube.
Ouais, c'était marrant parce que... Ouais, on a proposé plein de choses en fait. On s'est proposé plein de choses de chansons. Et c'est Thomas qui m'a proposé les 10 commandements. Et au début, j'étais, mais non, mais c'est pas. Enfin, je n'aime pas cette daube en fait, quoi. et en fait, je l'ai réécouté et j'ai jamais aimé ce morceau. Et là, d'un coup, j'ai fait, mais en fait, c'est super ce morceau, c'est super
oh,
beau.
Wow.
Ouais, j'ai eu une vraie révélation.
Ok. Ah, super intéressant. Okay. Donc c'est pour toi, c'est une daube récente en fait.
Bah, ça a toujours été une daube pour moi, mais c'est plutôt.
Mais tu enlèves.
C'est
tu
un
hymne
maintenant.
Non,
voilà.
Non, récent.
Mais pour moi aussi, c'est une daube pas aussi récente que Edouard, mais c'est pas une chanson que j'ai aimée à sa sortie.
D'accord. T'avais pas l'envie de l'aimer.
J'avais pas. Oh, très joli. J'avais pas l'envie de l'aimer exactement. Non, mais en fait, c'est une chanson qui est liée à un souvenir. En fait, je me rappelle, j'étais avec une personne et on était dans un taxi un peu ivre, on rentrait et il y a eu cette chanson. Et je sais pas, ça m'a donné un élan. Parce que c'est vrai que cette chanson, elle apporte un truc. Et,
ouais.
Voilà. Et en fait, je l'ai compris à ce moment-là dans ce taxi.
Il suffisait d'être bourré, en fait.
C'est ça, exactement.
Ok. Mais effectivement, la daube des uns n'est pas forcément la daube des autres. Je pense que ça dépend des époques. On s'en parlait un petit peu aussi avec Edouard, justement, avant. C'est vrai que j'essaye de ne pas définir les choix des chansons qui sont défendues dans ce podcast par plaisir coupable, parce que j'ai l'impression qu'on est... À des âges, on a franchi le pas, où ça y est, on a plus honte, tu vois.
Ouais, puis moi, je vois surtout, soit c'est une bonne chanson, soit c'est une mauvaise chanson. Après, peu importe un peu comme c'est habillé, ou si on aime ou si on n'aime pas. Puis il y a plein de choses. Maintenant, j'ai l'impression que plein de gens, par exemple, aiment beaucoup Britney Spears. Moi, j'ai toujours trouvé ça... Enfin, j'aime pas, en tout cas.
Ouais.
Et tout le monde adore, et le dit devant tout le monde, et c'est très bien. Voilà.
Alors que moi, j'adore.
Voilà, Edouard adore. Exactement. Il n'y a aucun problème avec ça.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je pense que c'était vraiment un truc... Enfin, moi, je sais qu'en tant qu'adolescente, c'était là que je pouvais avoir honte de certains de mes plaisirs, qui sont toujours des plaisirs actuels. Mais maintenant que j'ai 28 ans, je n'ai plus honte. Je l'affiche ouvertement sans aucun problème. Donc voilà. OK, donc on a l'historique de Thomas. Donc, il suffisait d'un petit voyage en taxi un peu alcoolisé pour se réconcilier avec ce titre. Et Edouard, donc, il a fallu que Thomas te prenne par la main.
Ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai aussi des souvenirs quand même de soirées aussi. Je pense que l'alcool aide pas mal pour aimer cette chanson, j'ai l'impression. Ouais. Parce que moi, j'ai des souvenirs de soirées où, je sais pas, cette chanson commence et je suis un peu « Oh non, pas ça ». Enfin, je déteste les comédies musicales en plus, en vérité.
Ok.
Et puis, tu sais pas pourquoi, au bout d'une minute, tu commences à te laisser happer, puis tu te retrouves cinq minutes après, bras dessus, à crier la chanson et tu fais « Je sais pas, on est tous heureux ». On se cache plus pour aimer cette chanson, quoi, en fait.
Ouais, bah c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment justement ma prochaine question, celle que je me posais, parce qu'en fait, de tous les groupes que j'ai reçus ensemble sur des épisodes de l'hymne à la daube, il y en a que trois, dont vous, qui ont choisi une daube commune. Les premiers étant Catastrophe avec le temps des cathédrales, Notre-Dame de Paris.
On est un peu dans le même
exactement
dans le même registre, mais c'est plus dur, je trouve, le temps des cathédrales.
Ah ouais.
Encore.
Bah attends, on va y revenir.
Ouais,
et deuxièmement, c'était Raphaël et Théo de Terre Noire qui eux m'ont parlé d'une chanson de Gilles d'Or.
Ah oui, ça j'aime pas, par exemple. Mais parce que j'ai vu aussi, ouais.
Ouais,
mais,
exactement.
Mais après, voilà.
Les goûts, les couleurs, quoi.
Exactement.
Mais effectivement, donc, parmi ces trois, ce qui domine, c'est la comédie musicale. Donc, est-ce qu'il y a ce côté fédérateur?
Moi, c'est un genre comme Edouard que je n'aime pas du tout.
Ouais.
Typiquement, même West Side Story, des choses comme ça m'insupporte.
Ok.
Et c'est très difficile pour moi. Il y a plein de gens, en plus, qui me disent « Mais si, c'est génial comme, !» comme genre. Enfin, je veux dire, c'est quand même mélangé souvent... Voilà, un récit, des chansons, de la danse et tout, etc. Mais pour moi, c'est trop indigeste à chaque fois. Et c'est vrai que s'il a pu m'arriver d'aimer une ou deux chansons d'une certaine comédie musicale, ça a toujours été très difficile comme genre pour moi.
D'accord. Pareil pour toi, du coup.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les comédies musicales.
Le côté indigeste un petit peu qu'il peut y avoir pour
toi. Oui, non, mais en fait, moi, il y a un truc... Genre West Side Story, par exemple, je l'ai vu au Palais des Sports, un truc comme ça, quand j'avais 8 ans. Bon, hormis le fait que c'était en anglais, que c'était surtitré, que je comprenais rien du tout.
Ouais.
Je ne comprends pas pourquoi les gens dans les comédies musicales ont besoin de s'exprimer de cette manière, en fait. Je sais, si t'as besoin de dire quelque chose, tu le dis très simplement, et t'as pas besoin de rajouter plein de gammes, plein de vibes, de le faire en chanson et en dansant, en plus. je comprends vraiment pas le concept, quoi. Je pense que ça pourrait faire... Un super film sans chanter, quoi.
Oui.
Voilà.
Ok, parce
ça
que...
Ça me touche pas, voilà.
Oui, parce qu'en fait, là, on est en train de citer en plus des choses qui... Alors, certes, qui rentrent toutes les deux dans le domaine de la comédie musicale, mais qui sont diamétralement vraiment opposées. Enfin, alors, c'est pareil, on pourrait y revenir, mais je ne l'ai pas vu, moi, les 10 commandements. Je connaissais simplement cette chanson. Je ne crois pas connaître d'autres titres que cette...
Mais non, mais c'est ça qui est hyper étonnant, en plus, quoi. C'est que cette chanson, c'est... elle symbolise quand même beaucoup de... C'est un hit, quoi, des comédies musicales.
Ah bah ouais.
Et en fait, elle n'était pas dans le spectacle à la base.
Exact.
C'est ça, on a incroyable. Découvert ça.
Ouais.
C'est le rappel,
ça,
quoi, en
fait. Il y a quelques
fait.
Jours, exactement. Ouais.
Ça, je trouve ça fou.
Ouais. Ouais.
Je sais pas, c'est le dernier, la dernière chanson qu'ils ont lancée avec Pascal Obispo. Ils ont fait, allez,
ouais.
C'est parti.
Et alors, j'avais vu, je me suis beaucoup renseignée, une interview de Pascal Obispo qui disait que lui, quand il avait composé cette chanson, il l'avait pas du tout imaginée aussi grandiloquente.
C'est raté.
Exactement, il l'avait imaginée beaucoup plus douce. Et en fait, c'est Daniel Lévy qui a tout donné.
Ouais.
Et Pascal Obispo, je crois qu'au début, il était en mode, mais non, qu'est-ce que tu fais?
Enfin, c'est vrai que
ça,
la fin vibe énormément. Quoi.
Ah,
mais d'un côté, il y a un truc agréable dans cette vibe que normalement, j'aime pas du tout. Et puis, il y a ce côté Disney, puisque apparemment, le morceau était à la base un morceau de Obispo pour un Disney qui n'a pas été repris. Et Daniel Lévy, c'est lui qui chante ce rêve bleu quand même.
Exactement.
Donc, on est quand même sur un truc presque full Disney.
Ouais.
Et moi, je ne supporte pas les Disney depuis que j'ai 14 ans et que j'ai compris, que j'étais plus enfant.
Ouais.
J'ai haï les chansons dans les Disney. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça aussi. Ça se rapproche aussi du domaine de la comédie musicale, d'une certaine manière.
Ouais.
Et je ne supporte pas ça. Mais sur ce morceau, je ne sais pas pourquoi, ça marche.
Ça marche, ouais. Alors, c'est juste anecdote rigolote, parce que tu disais, Edouard, pourquoi est-ce qu'on va dire les trucs les plus lambda du monde en chantant et en dansant ? Il y a une semaine pile, au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast, je suis allée voir Starmania avec nos amis Pyjama et 30.
Mes parents sont allés hier.
Ils ont aimé ?
Doucement.
Ils ont aimé doucement. Bah nous on a plutôt bien aimé. Moi j'aimais bien Starmania de base, mais
histoire très étrange d'ailleurs.
Très sombre.
Il y a des grandes chansons par contre dans Starmania.
Ah bah ouais. Moi j'avoue j'ai chialé, mais bon je chiale facilement. Mais Hugo m'a procuré un fou rire à la sortie parce qu'il a dit que lui il a pleuré tout le long, sauf à des moments où justement ils vont dire des trucs très lambda comme où est la serre-tête. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté-là qui est pas du tout donné à tout le monde, je crois, dans la comédie musicale.
Il y avait Cendrillon 2000 ou je sais plus comment ça s'appelait.
Cindy 2000.
Cindy 2000, ça c'est très connu, c'est une vidéo YouTube. Pourquoi es-tu sorti? As-tu pris des extasies? Enfin, je vous conseille d'aller voir ça aussi. C'est vraiment la quintessence, je pense, de ce qu'on a pu faire de pire en comédie musicale dans les années 2000.
Tout à fait. Alors justement, dans les années 2000, en fait, les 10 commandements se situent entre Notre-Dame de Paris 1998 et Roméo et Juliette 2001.
J'ai tout l'historique et j'ai l'impression que la fin de cette période se finit avec Versailles ou je sais plus la comédie musicale.
1789.
Non, ça c'est la fin, ça marche
sinon...
déjà plus très bien. C'est le Roi Soleil et Roi Soleil c'est la dernière qui marche beaucoup, c'est 2005.
Tout
donc
à fait. Et alors où étiez-vous à ce moment-là? Qu'est-ce que vous écoutiez? Vous étiez où musicalement parlant à ce moment-là?
En 2005.
Début 2000.
Début 2000.
Bah moi j'ai le, excuse-moi Edouard, je t'ai coupé.
Non, vas-y.
Moi j'habitais donc chez mes parents forcément parce que j'étais jeune et j'avais un cousin qui est venu habiter à la maison, il était un peu plus vieux que moi et il m'a commencé à me faire écouter du rock et puis après 2000-2001 les Strokes.
Ok.
Et là voilà j'étais déjà un rocker un peu avec Muse et là les Strokes après c'était terminé, j'ai baby rocker tout
d'accord.
de suite quoi.
Et donc, opposition totale à cette tendance des comédies musicales.
Oui, et sachant qu'en plus, ma petite sœur, elle était fan, vraiment fan de toutes ces comédies musicales. Et écoutez, à l'époque, on avait une espèce de petite chaîne, une petite boule là, où on mettait le CD.
Ouais.
Et elle adorait prendre des douches de 1h30 et on était au même étage. On avait la chambre à côté et elle chantait toutes les chansons. Donc... Et ça a commencé chronologiquement hein, par Notre-Dame de Paris, pour finir jusqu'à Versailles.
Bien sûr.
Donc j'entendais, en plus je subissais ces chansons vraiment tout le temps.
Overdose quoi.
Overdose, ouais. Et on en a beaucoup rigolé. Et d'ailleurs, je l'ai appelée pour préparer l'émission, pour qu'elle me rappelle un peu tout ce qu'elle écoutait, etc. Et en lui disant ça, elle m'a dit « Attends, ils refont les 10 commandements, tu veux pas venir avec moi ?»
Oui.
Elle m'a vraiment dit ça et j'ai dit « Bah, je crois pas.
» Non.
En plus, malheureusement, il n'y a plus Daniel Lévy
en
qui
plus,
nous a quittés en 2022.
Exactement, j'allais dire on l'embrasse, mais...
Voilà.
je vais pas le dire comme ça du coup.
Donc sans lui, je crois que j'irai pas voir Lady Gaga.
Bah je comprends, c'était un bel argument quand même qu'il soit là effectivement. Et toi Edouard, alors tu te situais où musicalement parlant à ce moment-là?
Bah pareil, je découvrais les Beatles, je pense, à 10 ans. Et après, j'ai découvert Muse, Placebo, choses comme ça. Okay. Et je quittais la période boys band. J'écoutais grave ça quand j'étais petit. Et voilà, et je suis très vite arrivé vers les Strokes aussi.
C'est marrant parce que boys band, t'avais quand même un petit peu plus de terreau pour potentiellement quand même aimer les comédies musicales avec toutes ces voix qui se réunissent.
Et aussi la house music en vérité.
Ah ok.
Je trouve. ce sera un autre sujet dans notre podcast, mais les boys band, je trouve c'est... La bonne house music.
Mais après, ça dépend un peu de l'âge, parce que moi, en 2000, j'avais 13 ans.
Ouais.
Edouard était un peu plus jeune, tu dois avoir 10 ans.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que 13 ans, c'est là où j'ai l'impression qu'on commence au collège à, voilà, soit on est un rocker, soit on est un. Voilà, et moi, j'étais clairement un rocker.
Ouais, j'étais rockeuse aussi. De ouf.
Je suis toujours.
Bien sûr. Pépite, mais gros groupe de rock.
Il y a un peu de rock dedans, quand même.
Il y a un peu de rock, c'est pas fermé au rock, en tout cas, c'est sûr.
Mais j'écoutais pas de comédie musicale en tout cas. J'aimais pas ça et je voulais pas m'y intéresser. Mais malgré moi, j'ai l'impression que dans la cour de récréation, t'es obligé. Enfin, c'est bizarre quoi. La chanson sort et un an plus tard, ça fait partie de ce genre de chanson. Tu connais les paroles par cœur malgré toi, tellement ça a été matraqué.
Oui, puis c'était énorme comme truc parce que puis on connaissait le chorégraphe Kamel Wally. Enfin voilà.
Qu'on embrasse.
Voilà, par exemple. Non, mais c'était monstrueux comme c'était une machine. Ouais. Voilà,
c'est donc... le début de la folie, quoi, des comédies musicales, quoi.
C'est ça, ouais. C'est l'âge d'or.
Et en plus, ça allait très bien avec l'âge d'or. Tu disais Kamel Wally, qui effectivement a travaillé notamment sur les 10 commandements.
Ouais. Starac.
Et la Starac,
bien sûr. Bien
donc,
sûr,
ouais. Donc laisse tomber en fait.
Mais il y a grave un esprit Starac là-dedans. Ouais.
Exactement, et tout à fait. Et du coup, en fait, voilà, ce que je voulais dire depuis le début, c'est que vous citiez West Side Story et Les Dix Commandements. C'est quand même des choses qui sont foncièrement très différentes, même si elles sont comédies musicales, mais elles proposent pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes pays. Mais du coup, voilà, toutes sortes de comédies musicales, vous êtes plutôt pas fan, quoi.
Pas vraiment. Après, comme je te dis, il y a des chansons que j'aime, par exemple dans Starmania, des superbes chansons qui sont intemporelles. Mais c'est vrai que voilà, on les sort un peu. C'est des très bonnes chansons qu'on sort un peu de l'histoire et ça me va très bien comme
ouais,
ça,
ouais.
Je pense.
Ouais, exactement, comme avec L'Envie d'aimer, qui n'est donc qu'une chanson de rappel finalement.
Ouais, c'est ça.
Surtout qu'elle est chantée par Daniel Lévy, qui incarne Moïse, qui est mort en fait dans l'histoire. Donc du coup, il revient pour chanter ça.
C'est sûr, mais Moïse n'est jamais vraiment mort, je crois.
Oui, c'est vrai. c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le gars est juste mort. On ne peut pas se permettre de dire ça. Effectivement. Donc, est-ce qu'on est sur un amour de la chanson, notamment avec cette fin qui propulse un petit peu, ou alors dès le début, vous avez fini par être happé par ce morceau ?
Ça commence. Elle est longue déjà la chanson. Hein.
C'est étonnant.
Elle est très
pas loin
longue.
De 7 minutes. Ouais.
Ouais. Donc elle est très longue. Bon, on pourra revenir sur les paroles. Il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres. C'est tellement beau l'amour. Ça commence par ça.
Ouais.
C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Mais c'est un peu peut-être enfoncer des portes ouvertes parfois, c'est tellement beau l'amour.
Je crois, est-ce que c'est tellement simple l'amour ?
Je crois.
Mais je crois qu'il redit après.
Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Alors, ça pour le coup, l'amour n'est pas simple.
Excusez-moi, mais oui, disclaimer, s'il y a bien une chose qui n'est pas simple dans la vie, c'est ça.
Mais par contre, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais on peut parler de l'auteur de la chanson.
Mais vas-y, voyons.
Qui s'appelle Lionel Florence.
Exactement.
Et Lionel Florence, c'est un monument de notre enfance.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ?
Parce qu'il a écrit un milliard de chansons folles.
Comme quoi ?
Je te cite.
Vas-y.
Savoir aimer.
Ouais.
Florent Pagny.
Ah oui, donc lui, il est à fond dans l'amour, par contre.
Sa raison d'être, Si d'action, 98. Celle-ci, elle reste bien dans la tête. Hein.
Putain, j'avais oublié.
Incroyable. J'ai regardé le clip ce matin, dans la cabine téléphonique, les téléphones gros comme des avant-bras et tout. Incroyable. Tu ne m'as pas laissé le temps, David Hallyday.
Ah, oh, c'est vrai, c'est lui.
C'est lui aussi.
Oh là là, cette chanson.
Ma liberté de penser.
Ma liberté de penser. Et Tu trouveras, Natacha Saint-Pierre. Donc quand même que des trucs qu'on a écoutés genre sur MCM, mais en boucle. Donc c'est quand même un personnage très important de nos vies.
Ah ouais.
Et j'ai même appris ce matin que c'était lui qui avait écrit le générique de Sous le soleil.
Voilà. Mais incroyable.
Donc c'est quelqu'un quand même, d'assez. Alors j'aime pas tout ce qu'il fait, même très peu de choses, mais quand même j'ai.
Mais moi, j'ai réécouté un peu hier, justement, tout ce qu'il faisait. Mmh. Et j'étais étonné, c'est quand même vachement bien. Enfin, il y a des chansons, je pensais que je n'aimerais pas du tout. Et un jour, une femme, tu connais ça ?
Non.
Je connais le titre, je ne sais pas si
je suis perdu, j'ai écouté tellement de trucs hier, je crois que c'est Florent Pagny. Et c'est incroyable, en fait, découvert.
Bah, en fait, c'est ce que j'allais dire avec les titres que vous nous avez cités de ce gars-là, donc Lionel Florence.
Ouais.
Je suppose que pas mal de ces titres pourraient être considérés comme des daubes, par exemple, chez les personnes que nous, on pourrait côtoyer dans nos milieux, en tout cas sociaux, professionnels, etc. Pourtant, il n'y a pas, c'est des morceaux qu'on connaît par cœur.
Oui, c'est ça. C'est que je pense que c'est quelqu'un qui a marqué une époque par ses chansons, et notamment Sa raison d'être, j'ai réécouté. C'est pas mal quand même.
Ouais.
Il est bon le morceau. Hein.
Ah ouais, ouais.
Il reste dans la tête, c'est une espèce de ritournelle. Je me suis dit, tiens, on aurait peut-être dû prendre ce morceau même, ça aurait été bien aussi. Non, mais en fait, je trouve que c'est.
T'as le droit de me parler d'autres morceaux si tu le souhaites, hein, y a pas de problème.
Non, mais ce que j'ai aimé en fait en parlant de ce morceau, j'ai oublié les 10 commandements, bref. Ouais.
L'envie d'aimer.
L'envie d'aimer, j'ai carrément perdu le titre. C'est qu'en fait, ça m'a replongé ce titre dans toute une époque des années 2000, MCM, M6, tous les clips qu'on pouvait voir. Et c'est vraiment maintenant, à l'heure actuelle, une époque totalement révolue. Il n'y avait pas Internet, c'était des CD de titres. Enfin, c'était fou, quoi. J'ai l'impression de...
Ouais.
Alors que c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. C'était il y a 20 ans.
Exact. Et ça fait mal quand tu dis ça.
C'est vrai, mais le monde a changé. J'ai trouvé ça fou. Alors que la chanson, L'envie d'aimer, reste éternelle.
Exactement.
Ouais, c'est ce que je me suis dit en écoutant cette chanson. Je me suis dit, mais c'est vachement bien, en fait, l'envie d'aimer. Et je me suis demandé si j'étais pas en train de me faire piéger par la nostalgie, en fait, aussi. Et que tout ce que tu viens de citer, enfin, la Starac, les CD de titres et tout, et que tu te reprends ça dans la tête. Et je sais pas, c'est beau, c'est touchant. Puis d'entendre les premières paroles, c'est tellement simple d'aimer. Tu trouves ça ridicule à l'époque. Puis je sais pas. Moi, à différence de Thomas, j'étais genre, ah, c'est bien d'écrire des choses simples comme ça, ça me touche.
Alors oui, effectivement, moi justement j'écoutais les paroles et je me disais effectivement c'est d'une simplicité totale, et en même temps est-ce que c'est pas ce qui peut nous plaire dans ce titre-là ou comme dans d'autres, hein, mais une simplicité de paroles qui touche presque à la naïveté finalement, quelque chose de très très terre à terre comme ça.
Je pense que c'est ça qui fait la force aussi du morceau avec ce petit nous là en glissando là, ce sera nous qui est très beau. Non, mais c'est en fait c'est juste une chanson qui est bien faite aussi, faut dire. C'est pour ça qu'elle est bien.
Ah oui.
Qu'elle reste dans la tête.
Exactement.
Ouais, la construction du morceau est un peu folle, quoi.
C'est vrai.
Minutes, il y a un troisième couplet.
C'est vrai.
C'est très rare. Et
à l'époque en tout cas.
Ouais.
Et non, c'est vrai. Non, moi je trouve ça très bien. Et puis moi, je trouve que c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson en particulier, c'est que je trouve que il y a quand même, notamment sur la fin, moi ça m'apporte de l'émotion vraiment.
Ah, ça devient très épique à la fin.
Voilà.
Ouais.
C'est très épique.
Et ça j'aime bien.
Et puis surtout, tu te dis que non seulement quand on l'écoute en version studio que c'est beau, mais peut-être que si on avait vu ça sur scène en plus,
peut-être.
On aurait pleuré.
Bah alors moi évidemment, mais moi je chiale pour un rien, je croise un chien dans la rue, je suis en larmes, donc ça, je ne suis pas une référence.
Mais moi ça m'a fait penser à une chanson que j'avais failli choisir au début pour cette émission, mais que j'ai pas choisi parce que c'est une chanson incroyable, c'était le coup de soleil de Richard Cochient, qui est un peu pareil, qui est un peu à l'italienne, c'est-à-dire vraiment tout mettre sur la fin et tout. Moi j'adore les chansons italiennes et j'aime bien quand les Français réussissent à faire un truc qui colle bien, parce que parfois, c'est pas bien fait, mais je trouve que sur ces deux chansons, c'est assez parfait. Et ça me fait penser à ces deux chansons que j'aime beaucoup, justement par leur final un peu poignant, peut-être too much même, mais bien fait.
Ouais. Est-ce que t'aimes bien Christophe, du coup ?
Moi, j'adore Christophe.
Évidemment.
Évidemment.
C'est marrant parce que ça aurait été la deuxième fois qu'on parlerait de Richard Cochient dans ce podcast, parce que justement, Trent m'a parlé de Question de Feeling.
Très bien aussi. Hein.
Voilà, Richard
Cochient, et Richard Cochient qui a écrit Notre-Dame de Paris.
Oui.
Ah ouais ?
Et moi, j'étais fan de Notre-Dame de Paris, donc je l'aime bien quand même.
Voilà, donc... Non, mais Richard Cochient, il est excellent. Puis double carrière en France et en Italie. Donc,
exactement.
Et les chansons en italien sont pas mal aussi.
Ouais.
Ça recommence Notre-Dame de Paris d'ailleurs, j'ai vu.
J'ai vu dans le métro.
Ça se fera pas sans moi, ça.
C'est sûr.
Direct. J'ai pas vu le premier batch. Faut pas que je rate celui-ci.
Je sais pas ce que c'est le casting. Ouais.
En plus. Est-ce qu'il y a Garou ?
Aucune idée. Non, je crois pas qu'il y ait Garou. Hein.
Garou, il a arrêté.
Je crois pas qu'il y ait Garou, qu'il y ait Hélène Segarra, tout
Patrick
ça.
Fury.
Ouais, non.
Non. Mais donc, quand même révélateur de ça, Notre-Dame de Paris aussi.
Ce casting.
Mais j'ai vu, j'ai parcouru un peu la fiche Wikipédia. 8 millions 5 spectateurs, c'est n'importe quoi. C'est en je sais pas combien de pays.
C'est fou, hein.
10 langues, je sais pas combien de langues.
C'est fou. Alors incroyable. Que les 10 commandements, ça a quand même vraiment bien marché. Bah, c'était pas autant.
Non, pas autant, mais ça, je pense autant. Que ça sera jamais autant.
Ouais, puis est-ce qu'on arrive à retenir un nom des 10 commandements, à part Daniel Lévy?
Exactement, la question que j'allais poser. Est-ce que quelqu'un d'autre sort du lot pour nous qui ne nous
sais pas.
Je suis incapable
exactement
de citer un chanteur ou une chanteuse de.
Julie Zenati, peut-être, non?
Non, Notre-Dame de Paris.
C'est Notre-Dame de Paris aussi.
Ah ouais?
Désolé.
Ouais!
Non, je sais pas.
Alors, qu'est-ce qui a fini par vous convaincre de ce morceau? Est-ce qu'on est sur, du coup, une simplicité des paroles qui s'accorde avec la grandiloquence de la mélodie? Est-ce qu'on est sur des arrangements? Est-ce qu'on est sur l'interprétation?
C'est un grand mélange, quand même.
Ouais, c'est un mélange de tout. Hein. C'est ça qui fait une bonne chanson, hein, je pense.
Est-ce que c'est ça qui fait une bonne chanson en général pour
bah
vous
oui, c'est quand, justement, à la fois la composition, l'interprète et les arrangements, en fait. Bah,
tout est simple.
Tout est
naturel.
Simple et on se dit que c'est comme ça que ça doit être. Et puis il n'y a pas.
C'est tellement simple.
Voilà, c'est tellement beau.
L'amour.
Non, mais je vois pas de. En fait, oui, on se dit qu'on voit pas comment elle pourrait être faite autrement.
Ouais, bah en fait je posais la question parce que je peux me rendre compte personnellement dans ce que j'écoute que il y a des chansons que je peux écouter en boucle que j'adore mais qui faillissent à la mission qu'elles ont soit de bien interpréter ou de bien écrire ou de bien composer, elles sont rares, mais il y a des chansons que je vais aimer alors que je trouve que c'est très mal chanté par exemple.
Oui, je vois parfois il y a des chansons qui sont très bien écrites par exemple Parfois, ça m'arrive aussi, on n'entend pas bien la voix, il y a trop de réverb, ouais, ça c'est assez énervant.
Ça peut être très criard dans les comédies musicales aussi.
Aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut rester une bonne chanson, mais parfois c'est pas parfait.
Ouais.
Voilà.
Et on l'aime quand même très honnêtement.
Exactement. Mais est-ce que l'envie d'aimer, c'est pas qu'on l'a écouté aussi 600 fois, donc on pourra pas peut-être s'imaginer un autre arrangement, c'est impossible.
Ouais. Et alors justement, depuis que vous vous êtes réconcilié avec ce morceau. Alors, vous l'aviez entendu 600 fois à l'époque où vous le subissiez.
C'est ça.
Est-ce que, dès que l'amour a été enclenché, vous l'avez réécouté, justement, réadopté?
Moi, je dirais pas vraiment. Enfin, il n'a jamais été vraiment sur mes playlists et tout, etc. Ouais. Mais c'est vrai que si je l'écoute à la radio ou, par exemple, quand je conduis, quand je suis sur l'autoroute, par exemple, je vais le laisser.
Bah, ou dans un taxi.
Voilà, ou dans un taxi. Pour moi, c'est une chanson, comme beaucoup de chansons françaises, un petit peu limite en termes de goût.
Ouais.
C'est beaucoup des chansons d'autoroute. Typique, Julien Clerc, certaines chansons un peu moyennes sur l'autoroute, ça passe incroyablement bien.
Laquelle de Julien Clerc, par exemple?
Ma préférence, par exemple. Elle est belle quand même. Hein.
Ah, autoroute, ma préférence.
Peut-être la moins autoroute. Non, par exemple, Partir.
Partir.
Partir, Partir, c'est la chanson d'autoroute. Bah, typiquement.
Ah oui, évidemment.
Ou même Eddie Mitchell. Moi, j'aime bien Eddie Mitchell, mais il y a des trucs très limites aussi, par exemple, chez Eddie Mitchell.
Qu'est-ce qui définit le mauvais goût? Vous avez quatre...
La personne qui le dit, je sais pas.
Oui, c'est vrai. Non, après, ce qu'il y a, c'est que le mauvais goût en musique, souvent, il est fait de clichés, souvent.
Mmh.
C'est-à-dire, c'est par exemple un chanteur français qui va vouloir être américain, mettre vraiment un truc... très cliché, qui lui appartient pas forcément. Pour moi, c'est un peu ça, le mauvais goût, si on pouvait le définir, en tout cas en musique.
Comme une malhonnêteté, un petit peu?
Un petit peu, peut-être une facilité ou une envie de copier un peu pas très belle, quoi, pas très fine.
Oui, d'accord.
Pour moi, c'est comme ça que je le définirais, mais après, il y a des choses qui peuvent être copiées, par exemple. Si on peut parler d'une chanson aussi un peu très mauvais goût, enfin, assez mauvais goût, R&B de rue, par exemple.
Ouais.
Comment il s'appelle déjà le...
Matthew Stone,
non?
Ouais, exactement.
Et ben ça se veut pour copier les Américains, mais c'est quand même pas mal.
Ouais, c'est vrai.
Cette chanson est pas mal aussi.
Ah, c'est intéressant.
Alors que, voilà, lui, il a quand même réussi, en voulant copier, à faire un truc pas mal.
Exactement.
C'est le cas de l'envie d'aimer, qui essaye de copier les comédies musicales. Non, je m'égare, il y a une belle tradition de comédie française. En fait.
Ouais, je sais pas. Après, il y a ce côté Disney, mais après Disney, c'est comme c'est traduit en plein de langues, Mais c'est vrai qu'il y a... Oui, c'est pas... Je sais pas.
T'aimais, toi, les Disney, Edouard?
Ouais, j'ai adoré les Disney quand j'étais petit.
Et t'aimes toujours?
Je regarde plus les... Là, je suis en train de découvrir les Miyazaki, maintenant. C'est un autre délire.
Ah, tu connaissais pas avant?
Non.
Ouais, ok.
C'est dingue.
Donc, ouais, mais c'est pas chanté, effectivement. Du coup, il y a pas ce que...
Non.
Il n'y a pas besoin de chants, de chansons, en fait. Ils sont tellement beaux.
Il y a des très belles musiques, ouais, mais il n'y a pas de...
Non, mais Aladdin, c'est sûr. Toute la BO d'Aladdin, j'étais fan quand j'étais petit, quand
même,
faut le dire. Et le Roi Lion, voilà. Deux gros classiques.
Ok. Quand même, oui.
Ouais.
Et du coup, Thomas, même ce rêve bleu, non, on en est revenu, quoi.
Bah, moi, j'aime pas trop ça, mais quand j'étais petit, je devais aimer quand même, hein.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'aime pas trop les chansons de dessin animé à l'heure actuelle, mais on pourra changer peut-être.
Ouais, on sait jamais. Hein.
Voilà.
Et moi, ce qui me faisait marrer, c'était effectivement, donc c'est le mot que j'aurais le plus dit dans cet épisode, mais c'est donc c'est cette grandiloquence de ce morceau de l'envie d'aimer, qui est donc, comme on le disait, hein, il est très long, il est très intense, il l'est de plus en plus, etc. Et votre musique, à vous, en tant que pépite, n'a rien à voir avec ce morceau, à moins que je ne me trompe et que vous vous y retrouviez un petit peu.
C'est moins biblique, ce qu'on fait.
Oui, ça, oui, effectivement.
Non, après, oui, non, ce n'est pas forcément une influence, effectivement. Après, typiquement, le refrain est très efficace. Parfois, c'est des choses qu'on peut essayer de rechercher, oui. D'avoir un refrain un peu comme ça, limpide, très efficace. Après, c'est vrai que en tout cas, moi personnellement, et surtout tous les deux, on a tendance à éviter de faire 5, 6, 7 refrains.
Oui. Parce qu'au bout d'un moment,
voilà, parce que
pose-déj.
Moment, voilà, exactement. Mais,
non, mais on aime bien faire des morceaux épiques, par contre.
Mais c'est vrai qu'on aime bien parfois avoir des fins épiques.
Oui.
Avec des fins de chansons qui. C'est le mur du son, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est Phil Spector, en fait.
C'est ça. Ouais. C'est un mélange de Daniel Lévy. Daniel Lévy, Phil Spector et Phoenix, quoi, en fait.
Effectivement, il peut y avoir ce côté épique aussi chez Pépite, mais qui relève pas du tout du même côté. C'est plus comme j'ai pas envie d'être Philippe Manœuvre et de dire du mot qui va rien dire. mais comment dire, cette impression un petit peu de je vais le dire, aérien en fait, qui peut y avoir chez Pépite, ouais. De flottement, etc. Et le côté épique de la fin de certains de vos titres existe effectivement, mais c'est pas le même que l'envie d'aimer, parce qu'on est moins dans...
Je pense qu'en fait, c'est un peu ce dont on parlait, que les chansons italiennes et les chansons françaises. Par exemple, j'ai l'impression que en France, notamment avec Christophe, par exemple, la musique est très épique, mais lui, il garde toujours la même manière de chanter, il est toujours très calme. Alors que par exemple, si tu vas voir Richard Cocciante ou même Calcutta maintenant, et ben ils vont hurler le dernier refrain.
Ouais.
Et je pense que c'est ça un peu la différence qu'il y a, c'est que eux ils mettent de l'intensité vraiment vocalement. Et ce qui peut être intéressant d'ailleurs, parce qu'on a peut-être un tout petit peu essayé de faire sur un morceau du prochain disque, un tout petit peu. Mais c'est vrai que quand c'est bien fait, moi je trouve ça assez irrésistible, mais c'est assez rare.
Ouais, effectivement. Effectivement. Et alors, on a abordé ce terme-là qui revient souvent hein, dans l'hymne à l'album, mais c'est ça qui est intéressant quand même. Celui de la nostalgie, qui fait que c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous vous êtes remis à ce morceau-là, qui faisait pas trop partie de votre actualité dans le temps, quoi. Est-ce que pour vous, c'était logique de faire appel à quelque chose du passé pour pouvoir parler d'un morceau, entre guillemets, d'aubesque?
C'est vrai que toutes les propositions qu'on s'est faites, c'était plutôt des vieilles tracks quand même. Mais alors pourquoi ?
Bah, je pense parce que ça revient peut-être à ce qu'on t'a dit en début d'émission, dans le sens où on n'a pas vraiment honte de ce qui est sorti, de ce qui sort maintenant. On n'a pas honte de grand-chose déjà, donc je vois pas pourquoi j'aurais honte d'un morceau qui est sorti récemment.
Non, mais honte ou simplement tu t'étonnerais d'aimer un morceau parce qu'il correspond peut-être en très peu de choses à ce que tu écoutes habituellement. Tu vois, par exemple,
après,
moi, j'ai pas honte d'être fan d'un morceau des Jonas Brothers, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'écoute d'habitude.
Oui, mais
j'aime beaucoup Flowers de Miley Cyrus.
Et ça n'a rien à voir avec...
Et voilà, je suis très étonné d'aimer ça, quoi. Mais okay. Quand c'est efficace, en fait, quoi, ça plaît. Quand
oui,
c'est bien fait.
Oui, je sais pas, moi, j'aime bien Young Thug, par exemple. Tu vois, ça n'a aucun rapport avec moi-même, mais je trouve ça très bien.
Ouais.
Par exemple, ou je sais pas, où tout le monde aime Drake, par exemple, j'ai l'impression que la moitié de la population aime Drake. Bon, bah, c'est pas mal, j'aime bien Drake aussi. Donc, voilà, j'ai l'impression que ça n'a aucun rapport avec ma musique.
Ouais.
Avec notre
ou
musique.
Avec celle que tu consommes.
Assez rarement, non.
Ouais. Et est-ce que la musique que tu consommes a quelque chose à voir avec la musique que tu fais?
Parfois, oui. Parce que j'ai l'impression que dernièrement, je me suis retrouvé à écouter beaucoup d'amis, enfin d'amis au moins de personnes que je connaissais.
Ouais.
Ça m'a fait un petit peu peur d'ailleurs. Je me suis dit, ah, je suis peut-être biaisé.
Ah, pareil pour toi?
Non, pas vraiment. Non, j'essaie de m'ouvrir tous les jours à des nouveaux trucs, quoi, mais pas spécialement les amis.
Parce que moi, je me posais cette question parce que en tant que consommatrice de musique, vraiment matin jusqu'au soir, je ne suis quand même pas musicienne, je ne le suis pas du tout, mais j'ai toujours cette réflexion qui me revient de si je voulais m'y mettre, je ne sais pas si j'arriverais à faire de la musique sans imiter celle que j'aime, alors que je voudrais faire quelque chose qui me ressemble quand même.
Bah, ça commence toujours un peu par l'imitation, je pense.
Oui, c'est sûr. Et après, je pense que si, quand on chante en français et qu'on écoute beaucoup de musique anglo-saxonne, ce qui est souvent le cas, moi aussi, on ne peut pas faire la même chose, ce n'est pas possible. Donc, il faut toujours adapter un petit peu. Et je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant de faire de la musique en français.
Ouais.
C'est qu'on ne peut pas faire du Drake en chantant en français. Si on fait exactement la même chose, ça va être horrible. Pareil, si on veut faire du Bob Dylan, ça va être horrible. Et donc, il faut trouver une manière en fait, de pouvoir dire en français, avec nos mots, avec notre ressenti, avec la manière peut-être des anglo-saxons et leur technicité sur certains sons et plein de choses comme ça.
Oui, d'où peut-être le entre guillemets courage de l'envie d'aimer des 10 commandements dans ces paroles qui peut-être seraient un peu moins courageuses si elles étaient en anglais, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de paroles, si elles étaient en anglais, ne nous choqueraient pas tant que ça en fait.
Ça passerait comme une lettre à la poste, vraiment.
Ouais.
Je pense que ça serait une chanson banale peut-être même.
Et effectivement, début du deuxième couplet, donc on parle de l'amour évidemment, hein, il dit c'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant.
Je l'avais pas capté. Ça passait bien, je trouvais. J'ai trouvé ça normal sur le coup.
Ah oui, on n'y fait pas spécialement gaffe sur le coup. Mais moi, j'ai quand même envie de savoir ce que ça vous évoque. C'est tellement rien d'y croire, mais c'est tout pourtant. C'est rien d'y croire. Qu'est-ce qu'on entend par ça ?
C'est tellement rien d'y croire. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a, ce côté. L'envie d'aimer, d'ailleurs, me fait un peu penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, L'envie de Johnny Hallyday.
Ah, j'ai aussi pas la ref là.
Qu'on me donne l'envie,
l'envie d'avoir envie, par exemple, qui est quand même déjà assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a un côté, l'envie d'aimer, sur ce sentiment, l'envie, qui est pas facile. Déjà, le mot sonne pas bien, faut dire. L'envie, comme ça sonne pas très bien en chanson, je trouve.
Okay.
Et c'est assez difficile de parler de ça en chanson, j'ai l'impression, de ce thème précis. Et j'ai l'impression que ces deux chansons y arrivent d'une certaine manière.
Celui de l'envie, du coup, pas aimer, hein.
L'envie, oui. Ouais. L'envie, enfin, je veux dire, l'envie d'aimer. Là, l'envie, qu'est-ce que c'est sur Johnny ? C'est l'envie d'avoir envie. Voilà, c'est encore, on descend encore.
C'est philosophique. Là.
C'est aussi philosophique.
Je trouve ça presque plus fort, moi, l'envie d'avoir envie.
Bah, c'est deep, hein.
Ouais, mais c'est pas beau, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui sonne pas. Mais en tout cas, c'est Johnny, c'est un énorme tube, hein, donc j'ai rien à dire là-dessus. Mais non, après, c'est vrai que les paroles, quand on les lit, sans la musique, elles font un peu. Ça retombe un peu, le soufflet retombe un peu, mais. En musique, ça marche bien.
Ouais, exactement. Parce que moi, je me disais, on a beaucoup de chansons sur, sur l'amour. Mais effectivement, ce n'est pas une chanson sur l'amour. C'est une chanson sur l'envie d'aimer. Alors, on a des chansons sur aimer. On a aimé de Roméo et Juliette.
C'est ce qu'il y a de plus beau.
Voilà, exactement.
Ça commence comme ça, d'ailleurs.
Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.
C'est ce qu'il y a de plus beau. Ce qui ressemble, d'ailleurs, un tout petit peu avec l'envie d'aimer. Qu'est-ce qu'il dit ?
C'est tellement simple l'amour, tellement possible l'amour. À qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment.
Ok, pas mal.
Ok. Bon argument, Daniel.
C'est pas mal.
Mais moi, ce que j'ai trouvé un petit peu subtil, en tout cas dans ça, subtil, on s'entend, hein, mais c'est parler d'avoir envie d'aimer. Est-ce que des gens qui n'aiment pas éprouvent l'envie d'aimer ?
Non, mais je pense que ça se rapproche de l'espoir. De l'espoir, d'avoir un amour, de...
Mais d'être aimé, du coup.
Et d'être aimé en retour, bien sûr. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette chanson, c'est qu'il y a... ça n'en dévoile pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est aussi à l'auditeur de s'imaginer tout ça. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'avec en plus ce côté grandiloquent à la fin, eh ben, ça donne un sentiment, celui dont je parlais que j'aimais bien, un peu bizarre. C'est-à-dire l'envie d'aimer, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'envie de quoi ? On ne sait pas vraiment, mais ça donne un peu d'espoir, une envie d'aller de l'avant, un peu, je dirais, que j'aime.
Ça te procure cet optimisme aussi ?
Ouais, moi, c'est vraiment l'envie de vivre, quoi, en fait. Quoi.
C'est vrai.
Il n'y a rien de plus triste que de... Si t'as pas aimé quelqu'un depuis des mois, des années, tu tu n'as plus envie de rien. Enfin, c'est la dépression, quoi, en fait. Quoi. Donc, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on me donne l'envie d'aimer, je trouve ça c'est plutôt encourageant. Quand même.
Ah, c'est beau. Mmh. Et là, j'appelle Florent Pagny qui va nous parler de savoir aimer.
C'est vrai.
C'est vrai que Lionel Florent aime beaucoup.
C'est lui qui a écrit ça.
Bah oui, ouais, bien sûr. Ouais.
Lionel Florent, c'est un hymne à l'amour ambulant. Ouais.
Ah, il a écrit des très belles chansons, ouais, sur l'amour.
Exactement. En plus, comme tu le disais, Thomas, c'est vrai qu'elle elle évoque à la fois beaucoup de choses, cette chanson, et en même temps pas tant, dans la mesure où l'auditeur, l'auditrice peut vraiment se l'attribuer. Enfin, c'est une chanson d'amour, mais pas d'amour forcément romantique. Ça peut être un peu n'importe quoi, surtout quand tu le remets dans son contexte. Là, il s'agit de Moïse. J'ai appris hier que Moïse avait une go. Moi, j'ignorais. J'étais peu informée. Elle s'appelle Sephora. Bref. Mais dans le contexte de la comédie musicale, en tout cas, bon, c'est vraiment le message biblique, tout simplement, a priori, d'aimer son prochain, quoi.
Ouais. Moi, je le ressens comme ça, ouais. Enfin, même quand je vous parlais tout à l'heure de ce souvenir où on est ivre en soirée en train de chanter ça, c'est juste... Tu ressens la communion, tous ensemble, de s'aimer, quoi.
Mais il y a ça aussi, je pense, dans le « Ce sera nous ».
Ouais.
Qui marche très bien, en fait. Ce sera nous dès ce soir.
Ouais.
Et en fait, ça marche quand même extrêmement fort.
Ça rend fou,
parce
en fait.
Qu'en fait, ça, ouais. Ça rapproche les gens. Et alors, moi, j'ai rarement écouté en soirée.
Ah ouais?
Mais si. Alors, oui, ça, c'est incroyable. J'ai un ami qui fait des fêtes dans sa cave. Et il met. Alors là, c'est vraiment l'Imalado. C'est vraiment tous les années 90.
Il donne tout.
Il donne tout. Et parfois, il met un peu tard l'envie d'aimer. Et il se met un drap comme Moïse. Et il chante avec le... c'est très beau. On avait beaucoup ri cette dernière soirée. C'était il y a quelques temps déjà.
Il l'a fait qu'une fois ou c'est un rituel?
Il l'a déjà fait une fois ou deux.
Une fois ou deux?
Non, même plusieurs fois. Ça peut être un peu un Disney-spectacle à la fin. Mais,
est-ce que ça veut dire que. Quelque part dans un carton, il range le drap qui peut ressortir facilement pour voir.
Je me demande si c'est pas un des rideaux de la cave, enfin voilà, qui prend à la va-vite. Mais, c'était très bien fait en tout cas, c'était très drôle.
Oui, parce qu'en fait, cette chose. Alors, c'est vrai qu'elle est. Donc voilà, ce moment de cohésion hyper positif, voilà, de l'amour vraiment. Très présent, quoi. Peut-être que c'est ça qu'on devrait chanter finalement dans des stades de foot.
Pourquoi pas?
Oh, ce serait trop mignon. Bon, je vote pour. Mais bon, je ne suis pas écouté par l'équipe du PSG. Faudrait que je sache.
Je visualise bien la scène, ça a l'air cool.
Ce serait trop mignon. Ouais. Bref, ça, je suis choqué.
Mais par exemple, au Milan AC, ils chantent Perché ti amo, en changeant les paroles.
Ils chantent quoi à la place?
Alors ça, je ne sais pas exactement, mais j'ai vu ça parce que j'aime bien le football et j'ai regardé pas mal de petites choses sur Internet. Et puis, j'ai vu qu'ils chantaient ça, c'est quand même assez joli.
Bah ouais. Est-ce que tu aimes Perché ti amo?
Moins. Cette chanson, je l'aime moins.
Ok.
Mais elle est pas mal hein, quand même. Hein. J'ai pas quand elle passe à la radio, je ne change pas, mais c'est pas mon truc favori.
Oui, on est sur une tolérance quand même.
Oui, sur une grande tolérance.
Ouais,
il y a peu de choses que je déteste vraiment. Les pubs, j'éteins la radio en général. Mais autrement, en chanson, c'est assez rare que je change vraiment.
Ah ouais, il y a peu de choses que tu détestes en musique.
Vraiment, qui me font changer. Pas beaucoup.
Et toi, Edouard?
Ça dépend, mais oui, c'est vrai que j'aime bien l'exercice radio, quoi, de laisser ce qui passe et d'accepter ce qui passe à la radio. Mais j'ai une oreille très tolérante.
Ce qui me fatigue un peu, c'est que moi j'écoute FIP souvent parce que comme j'aime pas les pubs, et parfois le free jazz ça m'embête pas mal. 18-19, là je suis obligé d'étendre pas.
Ouais, je suis pareil.
Mais j'aimerais bien aimer en plus, c'est ça qui m'énerve, mais vraiment j'y arrive pas.
Mais peut-être
qu'un envie d'aimer.
Peut-être qu'un jour, ouais, effectivement, l'envie d'aimer.
Tu as l'envie d'aimer le jazz de 18h à
19h. Il y a des trucs de jazz que j'aime beaucoup, mais c'est le côté free jazz. On voit très bien de quoi on parle, si, pour ceux qui écoutent FIP.
Est-ce qu'on a une tolérance par rapport à la musique qu'on écoute, comme vous le disiez, du coup, l'exercice un petit peu de l'oreille et de s'adonner à tout ce qui passe et pas détester en tout cas ce qu'on peut entendre, même si c'est moins sa came, quand on est musicien, selon vous?
Oh bah oui, je pense que c'est facile. Puis après, il y a peut-être un côté un peu analyse aussi, parfois.
Et puis tu te sens peut-être un peu concerné en tant que créateur toi-même de musique par le travail qui a été fourni derrière.
Ouais, c'est ça. Puis moi, par exemple, j'aime bien, quelquefois, c'est assez rare, souvent quand je suis en vacances, qu'il n'y a pas FIP, par exemple, souvent, je pars en Charente-Maritime, il y a une radio là-bas qui s'appelle Alouette. Et c'est une radio qui est assez généraliste. Et généralement, dans la voiture, je la laisse du coup tout le temps. Et ben, j'écoute un peu tout. Alors,
c'est un peu dance et chansons françaises.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu une sorte d'énergie un tout petit peu plus chansons françaises.
Ok.
Et donc là, généralement en vacances, et ben, je découvre un peu les nouveautés. Et j'aime bien, ça me fait plaisir. Les trucs que j'écoute pas, les trucs très très variettes en fait, qu'on n'écoute pas forcément. Moi, j'écoute pas la radio à part Philippe, donc voilà.
Effectivement.
Et j'ai entendu Céline Dion ce matin à la radio. C'est pas vraiment le truc auquel j'aurais pensé à mettre en me réveillant, mais finalement j'ai bien aimé.
Et bah,
il y avait par exemple le titre, je me rappelle l'été dernier, c'était vachement Christophe Willem.
Ah oui, d'accord. Okay.
PS, je t'aime, c'était une chanson comme ça. et qui était pas si mal faite.
Oui,
ouais, je trouvais pas si mal. Et je l'écouterais jamais. Enfin, je veux dire, sans Radio Alouette, je l'aurais jamais écouté.
Et alors, c'est pas pour me la péter, mais moi, je l'ai vu en live sur le plateau de la Star Academy parce que je suis allé à la Star Academy.
De Nouvelle Star
Non, c'était Star Academy. Il est venu
la Star Academy, c'est vrai.
Ah oui, oui, pardon.
Et il est venu interpréter son morceau. Je n'ai pas pleuré. En revanche, j'ai cru que j'aurais pleuré au moment où le public était prévenu, mais pas les candidats. Que Garou allait arriver pour interpréter Sous le vent avec candidate qui, elle, pensait qu'elle allait l'interpréter avec un confrère. Et en fait, en plus, il y avait les gars de la régie juste derrière moi parce que j'étais adossé contre. Et je les ai entendus dire vas-y, balance Garou. Et t'as Garou qui arrive du sous-sol sur une plateforme.
Et la candidate était soufflée, non?
En larmes.
Elle a pu chanter quand même.
Oui, elle a très bien chanté. Est-ce que c'est pas elle qui a gagné? Non, elle a pas gagné, je crois. Ah! Si, peut-être.
Ouais. Ça, c'est une chanson que je déteste vraiment.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Celle-là, elle n'a pas passé l'épreuve du temps pour moi encore.
Ça, et alors, voilà, c'était ma question parce que tu as parlé de Céline.
Je peux pas.
Céline, qui est concernée notamment par ce titre-là. Gros revival de Céline Dion en ce moment. J'ai l'impression que c'est un truc qui était soi-disant de base que fut un temps et qu'il est de moins en moins.
Ça fait très longtemps pour moi.
Tu l'as jamais porté dans ton cœur?
Non, moi, je l'ai vu en concert en plus en 97, je crois, donc j'étais tout petit.
Ouais.
C'était au Stade de France et tout, incroyable. Ouais. Même pas à 97, 98, vraiment à l'ouverture du stade.
Époque Notre-Dame de Paris.
Je devais bien aimer à l'époque. Tu l'aimais bien, je crois. Et après, je sais pas, c'est devenu un truc un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est devenu cool d'aimer Céline Dion,
oui.
Alors que moi, je trouve que ça fait mal à l'oreille, quoi, pour moi, vraiment.
Ok.
Mais c'est ce côté américain aussi, comme elle est québécoise, elle chante vraiment à l'américaine. Ouais. Il faut aimer, quoi. Et moi, ça ne me plaît pas du tout.
Pourtant, t'adores les Strokes, mais c'est pas très américain dans sa façon de faire.
C'est pas la même Amérique.
Ouais. Non, mais parce que moi, je me faisais la réflexion par rapport au rock. Moi, je suis un peu moins friande des Strokes, même s'il y a des choses que j'aime bien chez les Strokes. Mais parce que je suis très côté Grande-Bretagne pour ce qui est de l'écoute du rock. C'est très différent.
Mais
je
les Strokes, c'est pas le plus grand groupe des années 2000?
Bah non, c'est Arctic Monkeys.
Ah.
Bah moi je pense que
et les Libertines, ça. Vraiment...
Moi je suis assez d'accord. Bon. Enfin moi je pense que les Strokes en premier c'est sûr. Après c'est l'Arctic Monkeys et peut-être en trois les Libertines.
Ok, j'accepte ce classement si on inverse les deux premiers.
Mais bon, tu vois, c'est quelque chose, on est quand même assez d'accord. Mais
on est quand même assez d'accord. Non, mais effectivement, à partir de quand c'est devenu cool d'écouter Céline Dion, qu'on aime ou pas? Moi, j'ai des copines qui adorent Céline Dion, j'en ai qui n'aiment pas. Moi, je sais que c'est pareil depuis toujours, je ne suis pas une grande fan, mais j'avais l'impression qu'on était tous alignés fut un temps et qu'on ne l'est plus trop maintenant.
Vas-y, excuse-moi. Vas-y.
Non, mais ouais, parce que j'ai l'impression que j'aime cette chanson à partir. J'ai aimé cette chanson à partir du moment où j'ai vu des gens l'aimer, en fait, quoi. Et que ça rassemble les gens, en fait, quoi. T'es dans un bar, et 2h du mat, et tout le monde connaît par cœur les paroles de Céline, et tu fais, mais waouh, je suis passé complètement à côté de ça.
Ouais.
Et tu regardes ça, je sais pas, je suis un peu ému quand je vois ça quelquefois. Tu vois, ça rassemble grave les gens, en fait. Et du coup, cette chanson m'intrigue. Et après, je me dis, bon, je vais écouter cette chanson, voir pourquoi ça touche les gens. Et en fait, quand tu écoutes les paroles, tu fais, ah, mais c'est pas mal, en fait, ce que ça veut dire, quoi.
Ah,
j'ai pas d'exemple précis de Céline.
Mais est-ce que c'est pas, je voudrais pas choquer, mais est-ce que c'est pas un truc qui touche un tout petit peu plus la gente féminine que les garçons, Céline?
Je n'en sais honnêtement rien. J'y connais très peu.
J'ai un peu l'impression que moi, c'est quand même plus mes copines qui aiment Céline Dion et qui en rigolent et qui dansent un peu n'importe comment aux soirées, que les garçons qui font genre...
Peut-être, hein. C'est possible. En tout cas, c'est peut-être le cas en France. Au Québec, justement, je ne sais pas à quel point elle fédère un public paritaire, quoi. Oui, effectivement, moi, ça va plutôt être des filles dans mon entourage qui aiment bien Céline Dion.
Alors que...
Mais les mecs font genre, ils n'aiment pas, mais ils adorent.
Ils préfèrent Mafia qu'un fric, quand même. Ouais. Je veux dire, dans ce genre de soirée boom un peu.
Ils écoutent le générique de foot de rue, c'est pas.
Voilà,
il y a
peut-être des choses comme ça. Non, non, mais voilà, je jugeais ça comme ça. Mais c'est vrai que Céline Dion, ouais, je trouve ça un peu compliqué.
Ok.
Moi, j'aime bien maintenant.
Après, écoute En solitaire de Sous le vent.
Alors, non, Sous le vent, c'est un cas particulier. Celle-là, c'est très étrange, quoi, parce que je vois les gens kiffer et tout ça, mais je sais pas, ça clique pas. Je comprends pas ce que les gens kiffent dans cette chanson, quoi.
Moi, j'ai l'impression que les gens se moquent de la chanson quand ils la chantent.
Mais je suis pas sûr.
Mais je sais pas, hein. J'ai l'impression.
En fait, je comprends pas.
Moi, j'ai l'impression que c'est un truc comme L'envie d'aimer de Daniel Lévy. Que c'est en fait un truc que t'es obligé de hurler quand tu le chantes.
Mm-hmm.
Parce qu'on hurle L'envie d'aimer, hein, je crois.
Mais je trouve ça moins bien écrit Sous le vent, quand même.
Ah, bien moins bien écrit. Mm. Puis j'ai l'impression qu'il se fout un peu de la gueule de Garou aussi, avec sa voix qui est très rauque à ce moment-là. Et les gens font là, il crie comme ça et tout. Ils imitent un peu Garou.
Les gens peuvent pas s'empêcher d'imiter Garou.
C'est un peu limite, là, même.
C'est vrai. Attendez, vous avez dit que vous trouvez que c'est mieux écrit L'envie d'aimer, du coup.
Ouais.
Clairement.
Largement.
Mieux écrit en termes de paroles.
Ouais. Non, je veux dire, déjà oui. Et puis
il y a des trucs qui sonnent mieux, quoi, en fait, dans L'envie d'aimer aussi. Je trouve.
Oui, ça sonne beaucoup mieux que J'ai mis la grand voile. J'ai mis la grand voile, c'est Santillano, quoi.
Déjà, moi, j'aurais dit J'ai hissé la grand voile.
Ouais.
C'est pas ça qu'il dit, je sais rien.
Ben,
c'est peut-être
non, il
ça.
J'ai sorti
la grande voile.
J'ai sorti la grande voile, ouais.
Et j'ai glissé.
Oui, oui. Bah, ouais, ça me permet de faire un disclaimer puisqu'on parlait de l'envie d'aimer parce que oui, moi c'est une réflexion que je me fais depuis l'enfance, c'est que Obispo, qui donc est à l'origine de l'envie d'aimer,
bien sûr,
lui c'est pareil, il avait chanté c'est pas marqué dans les livres.
Ouais.
Ça m'énerve.
Ah, c'est pas écrit.
Bah ouais. Ouais. C'est en plus ça rime plus, c'est pas écrit dans les livres, tu vois.
Ah ouais, c'est vrai. Mais Obispo, oui, on en a pas trop parlé.
Parlons de lui.
Moi j'aime pas beaucoup parce que Obispo. Enfin, je veux dire, sa musique, ouais. Surtout. Et je pense que c'est sa meilleure chanson, L'envie d'aimer, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Excuse-moi, j'étais en train de regarder les paroles de Sous le vent en même temps et j'étais un peu outré par la première.
Allez, vas-y,
mais on
lance un petit peu.
Ouais, c'est... Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux.
Ok. C'est pas mal, quand même.
Ah ouais?
Ouais, ça va.
Je trouve ça décevant comme première phrase, quand même.
Oui, ça commençait bien avec « Et si tu crois que j'ai eu peur ?»
Ouais, c'est juste le « c'est faux »,
qui tombe juste après.
Ah, ok, ça va.
Bah, après, on peut retomber dans cette simplicité des paroles qui rejoignent le côté, encore une fois, très épique de la chanson, qui finalement rendent ça acceptable.
Ouais, mais ça tient
personnes.
Un peu de choses. Je trouve que ça sonne pas très bien, en fait, quoi.
Mais tu vois, on parlait de l'envie d'aimer, justement, ce refrain qui donne une certaine envie...
d'aimer.
Ouais, voilà, une sorte d'appétit, d'espoir et tout, ce qui n'est pas du tout le cas dans
Sous le vent.
Sous le vent, c'est juste Nana, un mec qui se sent envoyé. Bon.
Est-ce que c'est pas ça la différence, justement, comme on le disait, dans l'envie d'aimer, tu peux l'attribuer à absolument tout, l'envie d'aimer en général, que ce soit romantique, que ce soit des amis, ouais. Que ce soit le monde, la vie, tout ce que tu veux, alors que Sous le vent, c'est une chanson d'amour entre Garou et Céline. Quoi.
C'est ça.
Je pense que c'est ça, le côté un petit peu réducteur.
C'est un peu plus gnangnan, quoi, en fait, je trouve.
C'est
plus dire.
Moi, je reviendrai encore sur le coup de soleil.
Ouais, mais vas-y.
Et c'est vraiment ce type de chanson, le coup de soleil, pareil, ça te donne envie de... J'ai attrapé un coup de soleil. C'est incroyable, t'as envie d'aimer, envie de sortir. Voilà, et il n'y a pas du tout ça dans Sous le vent.
C'est un truc qui vous dérange, ça, le gnangnan, le cucu dans la musique? Il n'y a pas des trucs cucu que vous aimez bien? Richard Cochante, est-ce qu'il ne va pas un peu par là? C'est une vraie question. C'est pas rhétorique.
Bah, je trouve pas, mais je suis sûr que si.
Oui, sûrement. Mais en fait, c'est difficile à savoir, ça c'est très objectif, en fait, de qu'est-ce qui est kitsch, qu'est-ce qui est cucu, qu'est-ce qui est... Voilà, je ne sais pas.
Est-ce que les comédies musicales que vous adorez pas, justement, c'est un peu le côté kitsch qui peut vous déranger?
Moi, je pense que c'est l'exercice qui est très difficile, ce qu'on disait, avec l'espèce de phrase un peu chantée.
Mais est-ce que c'est pas kitsch, justement, des petits trucs comme ça? Tu vois, le
je sais pas si c'est kitsch, c'est peut-être qu'on n'aime pas juste ça. Ouais, oui, c'est peut-être kitsch, il y a un truc qui me dérange, je sais pas ce que c'est.
Ouais, j'arrive pas à identifier.
c'est les chemins de la philosophie,
c'est ça. Bah, oui, c'est vrai, on devrait peut-être faire une double émission.
et vous parliez de votre rapport à la radio. Voilà, dans cet exercice d'écouter un petit peu tout ce qui se fait. Et donc, Thomas, tu es friand de FIP, sauf de 18h à 19h. Là, t'aimes un peu moins.
Ça dépend, maintenant il y a Club Jazz à FIP, ils invitent maintenant des invités qui sont un peu moins jazz qu'avant.
Mmh. Ok.
Et c'est pas mal aussi, même si j'aime bien m'ouvrir au jazz parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas très bien. Et c'est vrai que quand je découvre un morceau que j'aime bien, je suis toujours content quand même.
Et on parlait du rapport à la radio et on parlait du rapport à la daube avec cet ingrédient clé qui est pour beaucoup de musiciens que j'ai reçus, la nostalgie. Est-ce que vous écoutez Nostalgie ?
Bien sûr.
J'ai beaucoup écouté, j'écoute beaucoup moins.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
T'es moins nostalgique ?
Peut-être que j'ai moins envie en ce moment, en tout cas enfin, depuis quelques années, je dirais, d'écouter de vieilles chansons. Peut-être. Je sais pas.
Parce que t'es...
Mais j'ai adoré pendant des années Nostalgie, ou peut-être parce que je connais tout en fait maintenant. C'est
mais cool, ça quoi. Se renouvelle un peu.
C'est étonnant. Oui, maintenant ils font rentrer en
plus. J'ai entendu des trucs des années 90 il y a pas longtemps et j'étais oula.
Comme
c'est,
quoi.
À mon avis, c'est que tu commences vraiment à vieillir si t'entends les chansons de quand t'étais jeune sur Nostalgie.
Ah ouais, ouais. T'as un exemple là en tête ?
Non, je sais plus ce que c'était. C'était, c'était un truc bien pop rock quoi. Ah, je suis désolé, j'ai plus le nom, un truc qui ressemblait à Avril Lavigne, mais...
Ah ouais, d'accord, ouais. Ok.
Peut-être ah ouais. Cranberries, tu vois, un truc comme ça.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Ça, c'est nostalgique.
Ouais.
On est mortel,
ouais, non, mais Nostalgie, c'est pas mal quand même. C'est bien. Moi, j'ai découvert des choses sur Nostalgie à l'époque de chansons françaises et tout, ouais. Genre Serge Reggiani, que je connaissais pas du tout. Après, je me suis intéressé, c'est qu'il y a quand même des super morceaux. Ou Gilbert Bécaud, par exemple. Là.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que. Je sais pas, je suis de moins en moins étonné en écoutant Nostalgie maintenant.
Ouais, j'arrive encore à découvrir des choses sur Nostalgie.
Mais oui, parce que vous me demandiez en off si j'aimais bien cette chanson. En fait, je l'ai beaucoup écouté en préparant ce podcast, enfin cet épisode, et j'ai pas du tout souffert en l'écoutant. Mmh. Mais c'est en l'écoutant, je me disais, oh, je trouve pas ça fou non plus. Mais à aucun moment, j'étais en train de me dire, bon, j'en peux plus de ce morceau. Je veux
pas. Tu t'es pas fait happer non plus, quoi.
Non, mais c'était pas un rejet comme une greffe de rein qui a mal tourné, tu vois. Bon, j'ai pas subi le moment, mais pour autant, je suis pas tombée en amour de la musique, parce que j'ai déjà travaillé sur d'autres daubes où je me disais, bon, là, c'est vraiment pas mon terrain à moi, quoi. C'est aussi l'intérêt de ce podcast. Mais effectivement, les arrangements, et moi, ce que j'aime bien, c'est l'entrée de la batterie.
Ouais, c'est cool.
Oui, c'est vrai que ça c'est un beau truc années 2000 aussi.
Ouais.
Gros break de batterie, ouais. Très Johnny Hallyday, Lara Fabian.
Il y a un côté très Johnny. Bah,
Phil Collins.
Mais c'est vrai que Johnny c'est quand même un monument quoi. J'aurais du mal à mettre ça dans la daube totalement.
Oh, tu sais, Poppy Fusée, elle m'a parlé d'Oasis. Hein. Donc,
ouais. J'ai vu, j'étais choqué. Ouais.
Bah, t'as vu quel morceau c'était en même temps.
Oui, mais c'est un super morceau en soi, je veux dire. C'est juste le fait du shuffle de la vie.
En fait, ça fait l'inverse de l'envie d'aimer, comme on l'a trop entendu jusqu'à écœurement. Quoi,
c'est ça, ouais.
C'est vrai.
J'ai même vu Don't Speak.
Ouais,
oui.
Ça, on n'a pas compris.
Ça, c'est un morceau extraordinaire.
Oui, on adore Yoa, mais là, on n'a pas.
Oui, mais c'est parce que vous avez cru que c'était la version No Doubt.
Ah, c'est la version de qui ?
Oh là
mes pauvres chéris.
Oh, on n'a pas écouté.
C'est la version Glee, la série Glee.
Ah,
je ne connais pas ça.
Et voilà.
Ah, très bien, alors excuse-moi.
Mais on ne pas.
Et bah, trop bien. Est-ce que vous avez une dernière chose que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire par rapport à cette chanson ? Que vous avez bien défendu.
Attends, je sors ma fiche.
Moi, j'aime beaucoup quand même dans les paroles la phrase « puisqu'on attend de vie en vie depuis la nuit des temps ».
Ça, c'est pas mal, ouais.
Je trouvais quand même que c'était...
Puisqu'on attend de vie en vie,
De vie en vie,
okay.
Depuis la nuit des temps.
Ouais, c'est pas mal, il y a un côté deep que j'aime bien, je suis d'accord avec toi.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas.
Merci à toi, c'était trop cool.
À bientôt, salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.